Pour votre info est présenté par Desjardins.
Cette semaine, une Québécoise à la tête d'un grand hôtel américain.
Ce qu'on va implémenter au W New York, qui est l'hôtel fort de la chaîne, ça va être des choses qu'on va exporter partout à travers le monde par après.
Une entrevue avec Christina Poon, directrice de l'hôtel W Union Square à New York. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean, le prix de l'essence franchit le cap des 2 $. Est-ce que les prix vont continuer d'augmenter?
Ça a quand même un impact, ça continue d'ancrer dans l'imaginaire des gens qu'il y a beaucoup d'inflation. Ça continue de se détériorer à ce niveau-là.
Je m'appelle Laurent Thérien, bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. On va s'entendre, rares sont les Québécois qui dirigent de grands hôtels, encore moins un hôtel emblématique de New York. C'est le cas de Christina Poon, qui a grandi dans l'est de Montréal et qui dirige aujourd'hui le W Union Square à Manhattan, et qui est aussi responsable de la refonte mondiale de la marque et de l'expérience client pour la chaîne W, un gros mandat confié à une femme d'expérience. Christina Poon a aussi dirigé l'hôtel W de Montréal et elle évolue depuis près de 30 ans dans l'hôtellerie. Cette semaine, rencontre avec une Québécoise à New York. Christina Poon, bonjour, bienvenue pour votre info.
Bonjour, Nara.
Merci tellement d'avoir accepté notre invitation, Christina. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on se parle. Je suis content que ça se passe maintenant. Christina, tu es originaire de l'Est de Montréal. Tu as étudié à l'ITHQ. Tu as gravi les échelons en commençant, disons-le, vraiment au bas de l'échelle dans l'hôtellerie. Pourquoi l'hôtellerie? Pourquoi cette passion-là dans toute ta carrière?
C'est une histoire assez loufoque. À 16 ans, on se cherche, puis il nous donne du temps avec un conseiller en orientation de carrière. Je m'assois dans son bureau, il me dit « Qu'est-ce que tu as le goût de faire? » Je dis « J'ai le goût d'aller en mode. » Il dit « Certain, toi et toutes les autres filles en secondaire 5. » C'est pas une bonne idée. Bon, on va trouver d'autres choses. Puis, en me posant des questions, on découvre que j'avais une passion pour le voyage. Mes parents m'amenaient partout dans le monde. En plus, tu es polyglotte, tu parles anglais, français, chinois, tu adores les événements sociaux et la cuisine. Il faut absolument que tu t'inscrives à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Voici le pamphlet, passe une belle vie.
Écoute, au moins, il a servi à quelque chose. C'est plate à dire, mais des fois, les orienteurs orientent les étudiants vers des voies qui sont un peu absurdes. Là, ça a eu un impact quand même positif à ce que je peux comprendre pour toi.
Absolument incroyable. J'y aurais pas pensé par moi-même, donc j'y en dois une grosse. Puis oui, j'adore ça. J'adore ça, c'est exactement ce qu'il avait prédit que ça allait être.
Ton père travaillait dans le grand domaine, disons, de la restauration et de l'hôtellerie. Si je me rappelle bien, il était chef chez Jardin Tiki. Est-ce que oui. Ça a été une influence positive pour toi?
Tout à fait. Il m'amenait des fois au travail, il disait « Écoute, viens dire bonjour à tout le monde, je courais dans les cuisines. » Bon, aujourd'hui, ce serait plus permis, hein, dans le temps, on pouvait quasiment s'asseoir dans l'auto sans ceinture de sécurité. Mais dans ces années-là, je pouvais encore courir un petit peu dans les cuisines, voir comment ça se passait. Puis j'assume, Laurent, que tu connais le restaurant Jardin Tiki.
Bien sûr, mais là, c'est une référence.
Exact, c'est coloré, c'était magique.
Là, on va faire ton pédigré en 3 secondes ensemble. Tu as été directrice des opérations chez Delta et responsable des divisions chambres de 1999 à 2008. Tu es passée par Hilton de 2008 à 2015. Tu as notamment été directrice générale. Après ça, tu as fait un petit détour vers les résidences universitaires pour résidences Evo entre 2015 et 2017. Et depuis 2017, tu es chez Hôtel W. D'abord, tu as dirigé l'hôtel de Montréal de 2017 à 2021. Et depuis l'année dernière, tu diriges le très fameux, je pense que c'est l'hôtel de la chaîne, le plus connu, celui de Union Square à New York. Tu as un mandat qui est très vaste pour les hôtels W. Avant qu'on se lance là-dedans, dis-nous, quel est ton amour de cette bannière-là? Pourquoi avoir choisi l'hôtel W alors que tu aurais probablement pu aller travailler ailleurs?
C'est une belle question parce que c'est quelque chose que qu'on découvre avec le temps et l'expérience, c'est quoi nos valeurs personnelles et professionnelles.
Ouais.
Et justement, pour moi, le design, la musique, la mode, c'est des trucs qui m'allument. Et cette marque-là, c'est à propos de ça. Non seulement ces valeurs-là sont communes, mais c'est aussi une marque qui est ouverte sur le monde entier, qui donne une voix, une place à toutes les communautés, que ce soit les femmes, les artistes et plus. Donc, c'est toutes des choses qui viennent me chercher en plus d'être dans un domaine que j'aime.
Mmh. Tu as eu le mandat lors de ton passage à Montréal, lorsque tu dirigeais l'Hôtel de Montréal, de revamper l'établissement. Pourquoi cette transformation-là était-elle devenue nécessaire et qu'est-ce que tu as fait concrètement pour transformer l'Hôtel de Montréal?
Donc, le WM Montréal était le seul hôtel à l'extérieur des États-Unis dans les Amériques du Nord. Puis, ça faisait bientôt 15 ans qu'il existait. Donc, on avait besoin de faire justement une belle transformation pour dire, écoutez, on est toujours aussi beau, aussi fin, mais on est encore mieux. Mmh. Puis comment qu'on a fait ça? En fait, on a travaillé avec la firme Sid Lee, on a travaillé avec l'équipe du siège social de W à New York, et on s'est dit, qui est le W Montréal après 15 ans d'existence et qui veut-on être par après? Et on est revenu sur le fait qu'on veut être un lieu rassembleur pour la communauté du design, de l'art, de la mode. Et c'est ce qui a influencé tout ce qu'on a fait là. Donc, on est allé chercher des artistes locaux. Chaque pièce qui est là au W Montréal a une histoire. Si on regarde, par exemple, les bancs qui sont dans le lobby, mais il y a un rappel des bancs de métro. C'est ça qui est fascinant. Ah,
ça reste que la chaîne W... disons-le, vieilli. C'est une chaîne qui était associée aux jeunes. Et puis, les jeunes vieillissent. La génération des milléniaux ou la génération X vieillit aussi. Est-ce que c'était nécessaire de faire un peu vieillir les hôtels pour garder cette clientèle-là?
Laurent, si tu me permets, je vais changer le mot vieillir par rendre plus sophistiqué.
OK, d'accord. J'accepte.
Parce que sinon, je me sens un peu visée. Non, non.
Pas personnel.
Non, mais nos invités ont commencé ces journées avec nous, disons, dans leur jeune vingtaine, lorsqu'ils ont décroché leur premier gros rôle de gestionnaire, puis ils avaient beaucoup de sous à dépenser, puis ils devaient voyager. Donc, ils choisissaient W à ce moment-là. Ces invités loyaux-là sont restés avec nous tout ce temps-là. Donc aujourd'hui, ils sont dans leur quarantaine, ils ont encore plus de revenus disponibles. Ils aiment toujours W, mais en effet, peut-être pas aussi sombre et peut-être que le volume de musique pas aussi fort. Donc c'est là qu'on devient plus sophistiqué, mais toujours en étant unique.
Bon, clairement, tu as fait des choses qui ont été appréciées puis qui ont été remarquées parce que, je le disais, il y a un an, tu as pris la tête du W de Union Square à New York. Amène-nous dans les coulisses de ton arrivée au W. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été approché? Comment ça s'est fait, ce changement-là de Montréal vers New York?
Premièrement, c'est pas la meilleure idée de changer d'emploi et de pays en plein pandémie.
Bon. Ouais, c'est pas recommandé habituellement, effectivement.
Non, j'étais tout seul à l'aéroport, tout seul dans l'avion presque. Puis les gens me regardaient comme pourquoi tu voyages au juste là, c'est presque la fin du monde. Mais face à part l'arrivée à New York, j'ai eu des belles surprises parce que on a des idées préconçues de comment les New-Yorkais travaillent, comment ils vivent. J'entends, par exemple, ils sont pas gentils, sont toujours à la course, puis pour eux, c'est l'ultra-performance avant tout. Puis quand je suis arrivée à New York, j'avais ces appréhensions-là un petit peu. Au contraire, j'ai été accueillie très chaleureusement par absolument tout le monde, que ce soit l'équipe qui est là-bas, la communauté qui est sur place, et mes collègues de travail new-yorkais. Donc, vraiment un bel accueil. Et j'adore New York. C'est la ville qui a été faite sur mesure pour moi. Ça a tout ce que j'aime dans la vie, dans quelques mille pieds carrés autour.
Donne-nous une idée de la reprise de la vie normale à New York. Est-ce que c'est un peu comme à Montréal où on sent enfin un peu plus de liberté puis un peu plus la capacité de revenir à une vie normale? Est-ce que c'est ce que tu vis aussi dans la métropole américaine?
En fait, j'ai commencé à vivre ça un mois après mon arrivée l'année passée. Donc, à pareille date, disons autour du 10 mai 2021 à New York, la vie reprenait déjà.
Chanceuse. Donc,
oui, vraiment. Et ce qu'on vit ici à Montréal en ce moment, on parle de pénurie de personnel, il manque des choses au niveau de la chaîne d'approvisionnement. C'est des choses que j'ai vécues il y a un an et qui se stabilisent un petit peu plus pour nous déjà.
OK, bien peut-être que ça, c'est annonciateur d'une accalmie aussi au nord de la frontière américaine. En tout cas, on le souhaite. Revenons à l'hôtel W de New York. Est-ce que le W de Union Square vit les mêmes enjeux, les mêmes problématiques que tu as rencontrées à Montréal, c'est-à-dire une clientèle qui change, qui, bon, devient plus sophistiquée? J'ai entendu le message. Est-ce que finalement, tu vas recréer ce que tu as fait à Montréal?
Oui, mais recréer, peut-être c'est pas les bons termes parce que en fait, Montréal, on le fait pour le W Montréal. Donc là, on va faire un travail similaire, oui, pour le W New York, mais en pensant même un peu plus loin que ça et dire ce qu'on va implémenter au W New York, qui est l'hôtel phare de la chaîne, ça va être des choses qu'on va pouvoir exporter partout à travers le monde par après. Donc si on dit le lobby, on va recréer l'expérience d'arrivée du client dans le lobby, dans cet hôtel-là. On réfléchit aussi à dire, est-ce que ce qu'on va réinventer ou on va changer peut être importé aussi au W Osaka au Japon? Donc, c'est là où on monte d'un cran ou quelques crans même, le niveau de difficulté.
Oui, c'est ça, parce que donc tu es au cœur de l'équipe qui est chargée aussi, non seulement de, comme tu le disais, t'occuper de l'hôtel de New York, mais de repositionner la marque aux quatre coins du monde. Ça doit être un défi parce que, dans le fond, chaque hôtel est différent, j'ai l'impression, puis chaque ville est différente aussi. À quel point est-ce qu'on est capable de recréer à Osaka ce qui se passe à New York? En gros, est-ce que c'est vraiment exportable?
Je dirais que oui, parce qu'on parle vraiment de l'expérience. Donc, on ne parle pas d'une couleur ou d'une coutume, mais plutôt de l'expérience. Par exemple, si on dit, lorsque les clients arrivent, on aimerait, ou les invités, on aimerait que les invités aient l'opportunité, par exemple, de choisir un parapluie avant de partir de l'hôtel, parce qu'il pleut cette journée-là. Mais ce serait quelque chose qu'on pourrait instaurer dans tous les hôtels que nous avons à travers le monde. Donc, c'est des décisions comme ça qu'on prendrait vraiment au niveau de l'expérience client.
Donc, tu es là depuis un an. Donne-nous une idée de ton plan, de ce que tu as en tête puis de ce que tu es en train d'implanter. Est-ce que déjà vous voyez des changements ou des améliorations?
En fait, c'est un petit peu tôt. Où nous sommes présentement rendus dans l'étape, si on veut, de la transformation, c'est au niveau du design. Donc, on commence avec le design lui-même. On est en train de tout rénover. On va rénover tout l'hôtel plutôt, du toit jusqu'au gym au premier étage. Donc, on se dit, d'accord, quel type de couleur, quelle sorte d'expérience qu'on veut dans la salle de bain, dans la chambre, dans le salon. Même chose lorsque les gens s'entraînent. C'est quoi l'expérience qu'on veut qu'il y ait? Donc, on commence avec ça. Puis après ça, on va se diriger vers plein d'autres choses. Il y a une équipe parallèle qui travaille sur le branding. Donc, on renouvelle un petit peu la lettre W pour qu'il soit un petit peu plus rajeuni, par exemple. Les choix de couleurs autour de la marque. Donc, c'est des choses, c'est des exemples de trucs sur lesquels on travaille en ce moment.
Je te propose, Christina, une réflexion sur la place des Québécois à l'international. Parce que là, tu viens de franchir une étape importante pour ta propre carrière personnelle, mais aussi pour le rayonnement du Québec à l'international. Des exécutifs québécois qui gèrent de grandes marques mondiales, il n'y en a pas 2000. C'est un groupe restreint de gens et félicitations pour ça. La première question pour toi, c'est un Québécois qui dirige une marque mondiale, il est perçu comment? Et est-ce qu'il y a encore certains préjugés ou des limites culturelles que tu ressens quand tu t'adresses à des employés ou à des partenaires internationaux?
Je dirais au contraire, c'est une force de venir d'une place comme le Québec. J'ai justement réfléchi à cette question avant notre discussion. Selon moi, là, nous avons un beau mélange composé du joie de vivre latine, tu sais, la passion et le sens des affaires anglo-saxon. Donc, c'est ça qui fait qu'on est différent, c'est qu'on a les deux côtés de la médaille et on apporte une très belle couleur à nos visions quand on amène ça avec nous ailleurs dans le monde. Et les gens le remarquent, l'apprécient, et c'est une force.
Tu disais y avoir réfléchi un peu à ce que ça veut dire à être une Québécoise qui rayonne à l'international. Est-ce que ça vient avec une certaine forme de pression aussi? C'est-à-dire que on a envie que nos personnalités québécoises réussissent à l'étranger. Est-ce que tu la sens, cette pression-là, de devenir une figure positive pour le Québec?
Peut-être. Posée comme ça, peut-être. En même temps, je suis une fille qui vit très bien avec la pression. Ça me pousse à mieux performer, à aller plus loin. Donc, j'adore ça. Et si ça encourage d'autres Québécois à partir à l'aventure, je dis pourquoi pas, tant mieux. On a tant à offrir.
C'est quoi tes ambitions à plus long terme? Je veux dire, bon, ben, on voit ta progression. Là, clairement, il y a un fil conducteur qui est l'accueil, qui est l'hôtellerie, qui est l'hébergement. Mais est-ce que tu as d'autres ambitions?
Plein. Laurent, on a toute la vie devant nous.
Donne-nous des exemples. À quoi tu rêves?
Écoute, j'aimerais ça explorer probablement le côté de l'Europe un peu. Donc oui, il y a les États-Unis, là je suis à New York, il y a encore beaucoup d'États aux États-Unis à explorer, à regarder, mais vraiment être en charge, par exemple, ça peut être le volet États-Unis de la compagnie ou européenne de la compagnie. Ça me charmerait beaucoup.
Est-ce que c'est un message ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est dans les plans? Est-ce qu'on peut s'attendre à une virée européenne bientôt?
Ah, peut-être. Ça, c'est un autre avantage de parler le français.
Ah!
Ça nous permet d'être exportable beaucoup plus qu'une personne qui ne parle qu'anglais.
Est-ce qu'il y a un hôtel W en France?
On avait le W Paris, mais comme tu le sais, moi, je travaille pour Marriott International. Donc, Marriott a en fait, oui, la bannière W, mais Marriott a aussi 29 autres bannières sous son chapeau. Alors, il manque vraiment pas d'opportunités. Alors, que ce soit avec W ou une autre marque avec Marriott, il y a beaucoup de potentiel. Et en plus, c'est une compagnie qui investit beaucoup, beaucoup dans la relève. Alors, pour moi, ils sont super. Ils m'ont préparé un plan de progression de carrière. Ils me donnent tous les outils nécessaires, dont une coach exécutive pour me permettre d'atteindre les sommets que je veux.
Bien, c'est tellement intéressant que tu nous amènes sur le plan de la relève puis sur le plan des opportunités parce qu'on sait que l'hôtellerie, c'est un des secteurs qui a été le plus affecté pendant les deux dernières années. On n'est pas obligé de revenir là-dessus. Je pense qu'on en est tous bien conscients. tu restes encore très impliqué au niveau de la relève. Tu es impliqué auprès de l'ITHQ où tu as étudié notamment. Est-ce qu'il y en a une relève ou est-ce que l'avenir en hôtellerie est un peu sombre en ce moment, puis les universitaires délaissent un peu cette profession-là?
J'aurais répondu oui, elle est sombre il y a un an, lorsqu'on était vraiment encore en plein pandémie, puis on broyait tous du noir, là. Mais aujourd'hui, je le vois autrement, complètement. C'est un peu comme acheter des actions lorsque c'est au plus bas. C'est le meilleur moment pour le faire parce qu'il y a plein d'opportunités pour la croissance et c'est exactement ce qui se passe pour les jeunes qui se sont accrochés. J'ai rencontré plusieurs dernièrement et ils m'ont dit « Écoute, j'ai décroché mon premier poste de superviseur, j'ai décroché mon premier poste de responsable de département et je ne peux pas être plus fière parce que je me dis « Mon Dieu, ils sont 5 à 10 ans en avance sur moi lorsque j'avais terminé la THQ. Wow! » C'est incroyable. Et c'est ce que je donne comme message aux jeunes qui m'approchent, que ce soit sur LinkedIn ou autrement, en me disant « Qu'en penses-tu? C'est-tu un domaine pour moi? » Absolument. Si c'est des gens qui sont passionnés du contact humain, oui, c'est un bel environnement de travail avec énormément de potentiel. Donc, je ne vois que du positif devant nous et il y a de plus en plus d'intérêt pour notre domaine.
Bien, c'est encourageant, Christina. Merci de cette note encourageante. Effectivement, j'ai fait une entrevue il y a quelques mois, je pense, avec Christiane Germain, qui aussi est de nature optimiste. Elle l'était moins dans cette entrevue-là parce qu'on était dans les mois sombres un peu de la pandémie. Je suis content d'avoir un autre son de cloche de cette industrie-là. Merci pour ça.
Merci à toi, Laurent.
Merci d'avoir été avec nous aussi cette semaine. Et puis, bon succès. On va suivre l'évolution de ta carrière peut-être vers l'Europe dans les prochains mois.
Merci.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean.
Bonjour, Jimmy.
Bonjour.
Alors, c'est symbolique, mais c'est important. On vient de franchir cette semaine le cap des 2 $ le litre à la pompe d'ordinaire. C'est important parce que c'est comme une espèce de reflet, je pense, de beaucoup de choses qui se passent dans notre économie, y compris l'inflation qui augmente. La question la plus simple du monde pour toi, Jimmy, est-ce que ça va continuer d'augmenter?
Effectivement, c'est la grande question. Puis il faut comprendre dans tout ça, c'est que ce qu'on voit, c'est encore l'impact de la Russie, c'est l'intensification des tensions, des sanctions. On a vu la semaine passée avec la présidente de l'Union européenne, de la Commission européenne plutôt, qui a proposé d'éliminer les importations en provenance de la Russie sur une période de 6 mois. Bon, ouais. C'est pas encore finalisé, mais il reste que ça va faire qu'il y a plus de pays qui vont avoir besoin d'obtenir du pétrole d'autres sources. Et ça met de la pression. En même temps, il y a aussi les contraintes dans les chaînes d'approvisionnement parce que, bon, il y a les prix plus élevés, mais ça, normalement, ça encourage les producteurs à offrir plus. Entre autres, les producteurs américains sont normalement très capables d'augmenter leur output très rapidement. Or, avec les chaînes d'approvisionnement, ça limite la capacité du pétrole de schiste de réagir aux signaux de prix parce qu'on manque de main-d'œuvre, on manque de pièces. Donc, on est pris dans ces goulots d'étranglement-là qui font en sorte qu'on n'est pas capable de réagir aussi rapidement. Donc, ça fait en sorte que toutes choses étant égales par ailleurs, les prix sont plus élevés. On a vu les Américains, il n'y a pas si longtemps, ont utilisé leurs réserves de pétrole pour tenter de calmer les pressions, mais visiblement, ça a été une goutte dans un océan. Donc, nous, avec tous les développements qu'on a vus, on a rehaussé notre cible pour le prix du pétrole pour la fin de l'année. On s'attendait à ce qu'il y ait un recul, mais là, on pense encore que ça va arriver. On va être plus dans le milieu de la fourchette des 90 en fin d'année pour ces raisons-là. Je pense qu'à court terme, effectivement, pour ta question première, c'est si ça va continuer à monter, bien, ça intervient tout ça en pleine saison estivale. Et évidemment, avec les restrictions qui ont été relâchées, l'envie de voyager est importante. Donc, on risque d'avoir une demande forte. Est-ce que les ménages vont réviser leurs anticipations ou leur plans? Ça va être à surveiller. Mais je pense que dans les prochaines semaines et les prochains mois, il faut s'attendre à ce que ça persiste.
Bon, alors moi qui espérais de bonnes nouvelles, il va falloir attendre une prochaine fois. Cela dit, je le disais d'entrée de jeu, ça a des impacts sur le reste de l'économie. En fait, est-ce que ça en a tant que ça, des impacts sur le reste de l'économie, Jimmy, la hausse des prix du pétrole?
Ben oui et non, dans le sens que, bon, 2 $ le litre, ça frappe l'imaginaire, mais ça reste, c'est 2 $, c'est un chiffre comme un autre. C'est juste une poursuite de la tendance qu'on voyait. Donc, mais ça, c'est clair que ça a quand même un impact, ça continue d'ancrer dans l'imaginaire des gens qu'il y a beaucoup d'inflation, ça continue de se détériorer à ce niveau-là. Puis, effectivement, ceux qui sont les plus lourdement touchés, ça reste encore les plus petits revenus, les gens pour qui l'essence ou l'alimentation, ça constitue une grosse part de leurs revenus. C'est aussi gens-là qui ont vu moins d'épargne accumulée durant la pandémie. On n'a pas vraiment beaucoup de marge au niveau du revenu discrétionnaire, donc pas beaucoup de choses dans quoi on peut couper comparativement aux mieux nantis. pour faire face à ces hausses de coûts-là. Ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis en ce moment, c'est une hausse du crédit à la consommation. Mm. Et ça signale que les gens utilisent leur carte de crédit pour défrayer leur déplacement, leurs frais d'essence. Donc, ça, c'est un facteur qui va être à surveiller. Je pense qu'au Canada, on a vu quand même dans la dernière saison budgétaire qui a pris fin avec le budget de l'Ontario récemment, bien, on a vu plusieurs provinces mettre de l'avant des mesures pour mitiger le coût de la vie, que ce soit des baisses de taxes à l'essence carrément. Comme
ou un fameux 500 $
Ou le fameux 500 $ effectivement, où est-ce qu'on a mis, on a rassemblé un paquet de sources de pression sur le coût de la vie, que ce soit dans l'alimentaire ou dans l'énergie. Donc, on a mis en place ces mesures-là pour tenter d'aider les ménages, mais il reste que ça pourrait être insuffisant. Et en bout de ligne, je pense qu'avec les pressions qui se multiplient, incluant la hausse des taux d'intérêt, ça fait en sorte qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait un ralentissement de la croissance du rythme de consommation à partir du milieu d'année particulièrement.
Dernière question pour toi, Jimmy. Moi, j'ai pris la décision d'entrer sur une liste d'attente pour une voiture électrique. Je suis allé récemment au salon de la voiture électrique. C'était rempli pendant 3 jours. Il y avait des files d'attente pour entrer à l'intérieur. Est-ce que je me trompe ou ça donne envie à certains consommateurs qui peuvent évidemment se le permettre d'acheter une voiture électrique?
Tout à fait. Puis, en fait, ça me conforte même dans ma décision d'avoir acheté un véhicule électrique en 2020.
C'est bon.
Donc, les gens se plaignent autour de moi, mais j'ai de la misère je suis chanceux. Comme ça, j'ai cette chance-là de ne pas subir ces pressions-là. Mais effectivement, on voit, il y a un engouement et ça vient de partout. On regarde les moteurs de recherche, par exemple, sur Google. Et effectivement, les gens s'intéressent de plus en plus à la voiture électrique, ça devient de plus en plus économique de le faire. Ici, au Québec, on a cette chance-là, les coûts de l'électricité. En Amérique du Nord, on a les coûts d'électricité les plus faibles, donc c'est très avantageux. On a vu, par exemple, Tesla qui a connu une augmentation fulgurante des ventes de véhicules au premier trimestre, 80 % par rapport à l'année d'avant. Donc, ça se confirme effectivement. Sauf qu'en même temps, il faut être patient parce que les listes d'attente sont longues et se prolongent avec les problèmes d'approvisionnement. Et c'est pas tout le monde qui a ce luxe de pouvoir attendre. Si on a une voiture en ce moment qui est au bout du rouleau et puis que ça prend encore beaucoup de temps, peut-être qu'on va y aller avec le premier modèle qui va être disponible, ce genre de choses-là. Mm-hmm. Et aussi, il reste que la voiture électrique, on parlait des moins nantis, ben, la voiture électrique, c'est en général encore plus cher. Les prix ont baissé, mais les modèles d'entrée de gamme ont tendance à être moins d'autonomie. Je le sais parce que ma première voiture était une e-Golf, puis c'est pour ça que je l'ai changée, parce que je trouvais que l'autonomie était un petit peu limitée. Donc, dans le climat qu'on a au Québec, il y a cette considération-là.
Ouais, c'est sûr.
Heureusement, c'est pas la panacée.
C'est ça. Heureusement, la technologie s'améliore d'année en année, puis on voit les modèles qui deviennent de mieux en mieux. Et je vous invite d'ailleurs, si vous n'en avez pas fait l'écoute, il y a une émission qu'on a réalisée il y a quelques semaines avec Hélène Bégin sur les voitures usagées qui est un bon complément à la conversation qu'on vient tout juste d'avoir. Vous irez écouter ça. D'ici là, merci. Jimmy, bravo pour ton choix d'avoir une voiture électrique en 2020. Je pense que c'était effectivement une bonne décision. Et pour tous les autres, on va continuer à payer un peu plus de 2 $ le litre. À bientôt, Jimmy. Merci.
Merci beaucoup, Laurent. C'est un grand plaisir.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Cet épisode a été coordonné et documenté par Philippine de Tinguy. Notre musique originale est signée Luke Melville. Et je m'appelle Laurent Therrien. Merci d'avoir été avec nous et on se reparle la semaine prochaine.